Laudetur Jesus Christus.
L'actualité internationale dominée ce soir par le sort de Goma, la ville congolaise est prise d'assaut par le M23 soutenu par le Rwanda. Des tirs de rafales sont entendus jusque dans le centre-ville. La population est terrifiée, tandis que les voisins africains tentent une médiation entre Kigali et Kinshasa. Une décision espérée depuis des années sur place il y a quelques minutes à Bruxelles. Les chefs des diplomaties européennes se sont entendus pour alléger les sanctions prises en 2011 contre le régime de Bachar el-Assad. Nous verrons comment. Réaffirmant avec force aujourd'hui que les graines de l'antisémitisme ne doivent plus être autorisées jamais à prendre racine dans le cœur de l'homme, le pape François se joint aujourd'hui aux commémorations pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Nous irons en Pologne dans ce journal. Et puis enfin, au lendemain du dimanche de la parole de Dieu, au terme du jubilé des communicants, comment transmettre la bonne nouvelle? Nous verrons l'intérêt qu'elle suscite en tout cas auprès des plus jeunes.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. La plus grande confusion règne encore ce soir dans la ville de Goma, dans la capitale du Nord Kivu, la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Forte d'un million d'habitants, d'autant de réfugiés, les gens restent pour la plupart chez eux, terrifiés, alors que des tirs nourris d'artillerie lourde ou légère ont retenti jusque dans le centre-ville. Signe de la confusion, la prison a été incendiée, permettant une évasion massive d'une partie des 3000 détenus et il y aurait des morts. Ce soir, plusieurs quartiers pourraient être passés sous contrôle du mouvement rebelle du M23 soutenu des soldats rwandais, plus de 3500 selon l'ONU. Kinshasa a accusé hier Kigali de lui avoir déclaré la guerre, Marie Norio.
Oui Marie, mais selon le Rwanda, la présence de ces soldats à Goma est seulement défensive car les combats sont à la frontière et représentent une menace sérieuse pour la sécurité du Rwanda. C'est ce qu'estime Kigali. Aujourd'hui, plusieurs affrontements ont effectivement été entendus de l'autre côté de la frontière, aussi côté Rwanda. La machine diplomatique, vous l'avez dit, se met en route pour stopper ces combats. On apprend que demain midi aura lieu une réunion d'urgence du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, l'UA, qui demande une stricte observation du cessez-le-feu mis en place en juillet. Et mercredi, les présidents Tshisekedi et Kagame sont attendus à Nairobi, au Kenya, tandis que la médiation RDC-Rwanda, précédemment sous l'égide de l'Angola, avait échoué en décembre. De son côté, l'ONU demande à Kigali de retirer ses forces de la région. Même demande de la part de l'Union européenne. LARDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. À noter que le conflit prend effectivement une dimension continentale. 13 soldats de la force d'Afrique australe arrivés sur place depuis un an pour soutenir Kinshasa et de la force des Nations Unies ont été tués ces derniers jours.
Merci Marine Henriot. Puis la situation en RDC, les relations entre Kigali et Kinshasa sont également au cœur aujourd'hui de l'attention des ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles. Autre dossier prioritaire pour eux, la Syrie. Le geste était espéré depuis des années, notamment par l'église locale. Ce soir, les chefs des diplomaties européennes se sont accordés sur l'assouplissement des sanctions prises donc en 2011 au début de la guerre contre le régime d'Assad. La correspondance de Pierre Benazé.
Kaya Kallas appelle cela une politique pas à pas, le principe étant, selon la chef de la diplomatie de l'UE, de lever les sanctions de manière graduelle, de les assouplir pour accompagner les progrès enregistrés par la nouvelle direction politique de la Syrie. Hayat Tahrir al-Sham est toujours classé comme organisation terroriste et les Européens ont mis par ailleurs sur la table, dès la chute de Bachar el-Assad, des exigences comme l'inclusion des femmes ou la représentation des minorités. En conséquence, l'Union européenne n'annule pas les sanctions, elle les suspend, ce qui veut dire qu'elles pourraient être rétabli si, je cite, « des mauvaises décisions étaient prises ». Une levée réversible des sanctions qui va s'appliquer au secteur susceptible de favoriser la remise en route de l'économie syrienne. D'abord le secteur financier afin de rouvrir les vannes des investissements nécessaires. Ensuite l'énergie car la Syrie est largement dépendante, en particulier pour l'électricité ou encore le kérosène aérien. D'ailleurs, les sanctions sur les transports, aériens en particulier, seront également suspendues avec à l'horizon la réouverture des aéroports et la reprise des vols directs entre l'Europe et la Syrie. Ce qui vise aussi à faciliter le retour des réfugiés. En revanche, certains volets des sanctions européennes restent en place, tels quels, comme par exemple les sanctions qui visent la famille élargie de Bachar el-Assad, ou bien les sanctions qui empêchent d'exporter vers la Syrie des matériels de sécurité qui pourraient être utilisés pour la répression. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
On allège certaines sanctions et on en confirme d'autres. Les diplomates européens ont également renouvelé les sanctions visant la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. La Hongrie a en effet levé son opposition, son blocage. Et puis cette fois, c'est Minsk qui est dans le viseur. Londres, en coordination avec le Canada, a pris de nouvelles sanctions ce soir contre le Bélarus en réponse à la réélection pour un 7e mandat du président Alexandre Loukachenko. 80 ans après, l'Europe et le monde commémorent ce lundi la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, où 1 million de juifs sont morts entre 1940 et 1945, ainsi que plus de 100 000 non-juifs. L'horreur de l'extermination ne peut être ni oubliée ni niée, a affirmé le pape François sur X. Plus jamais la Shoah, s'est-il exclamé, invitant à travailler tous ensemble pour éradiquer le fléau de l'antisémitisme, de la persécution religieuse en général. En Pologne, des survivants ont déposé des fleurs devant le mur de la mort de ce camp où des détenus étaient fusillés. Avec des casquettes bleues et blanches symbolisant leur ancien uniforme de prisonnier, ils ont allumé des bougies à la mémoire des morts. Leurs paroles, sont, et non celles des politiques, étaient à l'honneur ce soir lors des commémorations. Une cérémonie très particulière, car il s'agit probablement en effet de la dernière en présence de ces rescapés du camp. Alors que ces survivants sont amenés à disparaître dans les prochaines années, comment faire vivre, transmettre la mémoire de l'Holocauste en l'absence des témoins? Reportage d'Adrien Sarlat.
Urodziłam się w rodzinie żydowskiej, zarówno ze strony mojej mamy, jak również ze strony mojego taty.
Comme d'autres rescapés de la Shoah, Monika Goldwasser a pris l'habitude de raconter son histoire face à des classes d'élèves depuis des années.
Quand les nazis ont raflé les juifs sur la place du marché, ma mère m'a remplacée par une poupée qu'elle serrait contre elle, en faisant croire que c'était moi.
Mais le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau, Piotr Tsivinski, s'inquiète déjà de la disparition progressive de ces survivants, dont aucun livre d'histoire ne remplacera jamais le témoignage. Le musée prépare déjà une exposition d'œuvres d'art réalisées par les rescapés, représentant leurs souvenirs d'Auschwitz. De quoi immortaliser le traumatisme des camps.
Sur ces œuvres, on voit très clairement l'impact du processus de déshumanisation. Ces regards qui sont retranscrits sur les dessins, pour moi, c'est quelque chose d'incomparable à quoi que ce soit au monde.
Au cours des visites qu'il anime dans le camp d'Auschwitz, Tomasz Miraldo incorpore systématiquement des témoignages de rescapés qu'il a rencontrés en personne, comme pour préserver leurs souvenirs.
Un survivant m'a dit un jour qu'une fois que tous les témoins directs auraient disparu, ce sera nous, les guides, qui deviendrons les témoins de facto. Et c'est à nous que reviendra la responsabilité de transmettre l'histoire d'Auschwitz.
Une responsabilité qu'il endosse volontiers pour s'assurer que leur histoire échappe à l'oubli. Adrien Sarlat, Auschwitz-Chim. Pour Radio Vatican.
Et au Proche-Orient, à Gaza, depuis 5h ce matin, 5h GMT, une marée humaine de déplacés est en route vers le nord de l'enclave palestinienne ravagée par plus de 15 mois de guerre, le fruit d'un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de 6 nouveaux otages. Au Vatican, le pape François a reçu en audience 250 évêques religieux laïcs spécialisés dans la communication. Il les invitait à faire un travail symphonique impliquant tout le monde en toutes les langues pour raconter le bien et lutter contre la désinformation. Et alors que s'achève ce jubilé des communicants et au lendemain du dimanche de la parole de Dieu. Comment annoncer au mieux la parole de Dieu? Comment celle-ci interpelle-t-elle de nouvelles générations, notamment dans un contexte occidental sécularisé? Nous en parlons avec Céline Guillaume, présidente du groupe Librairie La Procure.
Plus 25, plus 30% de ventes de livres, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Je me souviens même entendre certains éditeurs disant l'année 2023 était formidable, l'année 2024 ne sera pas aussi bonne parce que les gens ont acheté une Bible, maintenant ils sont équipés, ils vont pas en acheter une deuxième. Mais en fait, si en 2024, cette tendance a continué, s'est confirmée, il y a toujours de plus en plus de catéchumènes, ce qui est un très beau signe d'espérance pour notre Église et pour le monde, et qui sentent que dans la Bible, ce texte fondateur, quand même, ils peuvent trouver quelque chose qui va peut-être pouvoir répondre à leur soif, à leur désir. Alors, en tant que libraire, c'est très joyeux, encourageant, stimulant de vendre des Bibles. C'est très beau, en fait, quand on est en conversation justement avec un jeune, notamment, qui vient chercher une Bible, ce sont toujours de très belles rencontres. En France, il y a eu le Pass Culture qui a été donné aux jeunes lycéens. Et ce qu'on a constaté, notamment à Paris, c'est que beaucoup de jeunes sont venus utiliser leur Pass Culture pour acheter une Bible. En fait, parfois, quand les jeunes viennent de milieux qui ne sont pas du tout croyants, ils n'osent pas demander dans leur famille à acheter une Bible, mais ils en ont entendu parler. Éventuellement, ils ont rencontré un jeune ou l'autre de leur âge qui est croyant ou qui leur en a parlé, ça leur pose question. Et donc, le fait de pouvoir rentrer dans une librairie librement et de se dire « bah tiens, je vais acheter une Bible et j'en parle à personne parce qu'ils ont besoin de garder une certaine pudeur, etc. » Bah, ils sont contents de pouvoir venir acheter une Bible.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Et puis enfin, le message du pape pour la 33e journée mondiale des malades le 11 février prochain a été publié. Le pape invite à s'appuyer sur le secours, la grâce de Dieu en cas de souffrance subie dans sa chair ou par ceux qu'on aime. La douleur porte toujours un mystère de salut, a assuré François. Et on ne peut comprendre cela qu'en accueillant et en cultivant le don de l'espérance. C'est à te retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée à toutes et à tous.